15h12 minutes, presque 13, l'ex-PDG de SNC-Lavalin, Pierre Duhaime, un homme dont on a beaucoup parlé ces dernières années, a finalement plaidé coupable ce matin, alors que son procès devait s'amorcer lundi sous plusieurs autres chefs d'accusation. Il a plaidé coupable donc à un chef d'accusation. La Couronne et la Défense ont même du coup suggéré d'un commun accord une peine de 20 mois d'emprisonnement à purger dans la collectivité, 240 heures de travaux communautaires, un an de probation et le versement d'un don de 200 000 $ au centre d'accueil aux victimes d'actes criminels. On en parle avec Robert Rouleau, procureur en chef adjoint au DPCP, directeur des poursuites criminelles et pénales. Maître Robert Rouleau, bonjour.
Bonjour, Mme Lavallée.
Maître Rouleau, on a l'impression, en tout cas dans l'équipe ici, que ce monsieur s'en tire plutôt bien.
Écoutez, je peux comprendre que dans le public en général, l'image pour certains, d'une peine dans la collectivité est, teintée de rose. En réalité, lorsque l'on regarde les circonstances du dossier, eu égard à la participation d'un accusé donné par rapport à un crime. Et dans ce cas-ci, pour remettre les choses en perspective, rappelons-nous que le crime que M. Duhaime pour lequel il a reconnu sa culpabilité, c'est un abus de confiance. En fait, une complicité d'abus de confiance. C'est-à-dire que étant PDG depuis 6 mois de SNC-Lavalin, il a eu à un moment donné connaissance du fait que des renseignements confidentiels étaient donnés de façon illégale pour l'obtention du contrat du CUSIM.
Ouais.
Il avait donc le pouvoir d'arrêter ça. Il ne l'a pas fait. Il l'a regardé dans l'autre direction. Et donc, il a reconnu sa culpabilité à ce crime-là. Et il n'a pas reconnu sa culpabilité à une fraude. D'ailleurs, rien dans le dossier nous permettait d'affirmer qu'il avait quelques bénéfices économiques reliés à la fraude que l'on sait, là, la fraude que l'on connaît.
Oui,
alors, dans
oui,
ce sens-là,
oui,
on part de ce phénomène-là. Et on regarde les circonstances objectives et subjectives du crime. Bon, je vous ai déjà parlé des circonstances objectives, donc
oui,
de la gravité objective, et manifestement, il s'agit d'un crime sérieux. Sinon, on discuterait pas d'une peine d'emprisonnement. Et là, le tribunal va regarder l'ensemble des critères subjectifs que vous avez pu lire, si vous avez eu l'occasion de lire le jugement de l'honorable Joly de la Cour du Québec. Mais il y en a quand même plusieurs. Donc, le tribunal doit se poser la question: si, à partir du moment où l'on pense qu'une peine d'emprisonnement est justifiée, et j'ouvre une parenthèse pour dire qu'il ne s'agit pas que d'une peine d'emprisonnement, mais il y a eu également des heures de travaux communautaires et un don substantiel au bénéfice d'un organisme qui supporte les victimes d'actes criminels.
Oui.
C'est quand même important. Mais à partir du moment où le tribunal dit, comme sanction, il doit y avoir nécessairement une peine d'emprisonnement, l'article 742.1 du Code criminel nous dit les conditions dans lesquelles il est de la discrétion du juge d'ordonner que cette peine soit purgée dans la collectivité. Et essentiellement, il y a deux critères, c'est que la sécurité de la collectivité ne soit pas mise à mal et qu'on respecte par ailleurs les objectifs essentiels et les principes de sentencing de l'article 718 et suivant. Et si le tribunal, et seulement si le tribunal en arrive à la conclusion que ces deux critères-là sont rencontrés, il peut à ce moment-là ordonner que la peine soit purgée dans la collectivité. C'est ce qu'il a fait.
Oui. Maintenant, M. Duhaime donc dit avoir agi par ignorance volontaire. Bon, dans cet aspect-là, ce que vous venez de nous décrire, mais il faisait face à 16 autres chefs d'accusation, dont complot, fraude, abus de confiance. Dites-moi une chose, est-ce que le juge aurait pu dire, bon, d'accord, vous plaidez non coupable à cette accusation-là, mais je veux vous voir dans ma cour quand même pour le procès. Est-ce que le juge aurait pu prendre cette décision-là?
Non, il n'aurait pas pu parce que dans le processus de négociation avec la défense, le ministère public en arrivait à la conclusion que sa reconnaissance du plaidoyer sur le chef d'abus de confiance dont je vous ai parlé pouvait nous permettre d'abandonner les autres chefs. Et vous comprendrez que l'évaluation de la force d'une preuve dans un dossier, et comme ce dossier-là date d'à peu près 6 ans de procédure judiciaire, bien, c'est un processus continu. Et donc, la position au jour 1 peut évoluer avec le temps. Dans un premier temps, la preuve, d'ailleurs, la qualité de la preuve peut, plus le temps passe, peut diminuer. Il y a des témoins qui peuvent ne plus être disponibles. de sorte que en soi, le processus de négociation, de plaidoyer, amène nécessairement à un, si vous me passez l'expression, là, à chaque partie de camper ses positions fortes, oui, ses positions, oui, moins fortes. Oui. Le résultat de celui-là, est, bon, je comprends que le chiffre frappe, là, on parle de 15 chefs, un chef pour lequel il reconnaît sa culpabilité. Ce que je retiens, c'est que l'ex-PDG d'SNC-Lavalin reconnaît sa culpabilité à une infraction criminelle et qu'il n'y a donc pas de procès. Donc, le juge qui devait être installé 5 mois va aller faire d'autres procès, que les procureurs, ouais, ouais, que les policiers vont pouvoir aller arrêter d'autres personnes, ouais, qu'il n'y aura pas d'appel, qu'il n'y aura pas de deuxième procès.
Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais quand, voilà, on regarde ce que c'est le sort des autres, bon, évidemment, Arthur Porter, dont on a amplement parlé, est mort avant, oui, d'avoir pu répondre à des accusations. Il y en a, Yelbaz, oui, lui, 39 mois de prison en décembre dernier. Oui. Disait lui non plus qu'il n'avait pas eu connaissance du versement de pots de vin. L'ex-VP, Riyad Ben Naïssa, plaide coupable, accusation réduite d'usage de documents, 51 mois de prison. C'est dans ce sens-là que je commençais l'entrevue en vous disant, semble qu'ils s'en tirent bien, dans le contexte de tout ce qui s'est passé avec les autres.
Écoutez, globalement, dans le processus de négociation, manifestement, là, il y a un résultat à laquelle on arrive. Il m'apparaît que, bon, vous avez parlé de 3 autres personnes, M. Ben Aïssa, 51 mois, Pamela Porter, 33, 39 pour M. Elbaz. C'est des peines de pénitencier. Mmh. À partir de là, c'est le jeu de la négociation qui entre en jeu. Évidemment, chaque individu arrive à la table en disant « j'ai des explications sur ceci, sur cela, vous vous trompez sur tel élément ». Et c'est ce que, au final, que l'on retient comme étant ce que l'on estime être en mesure de prouver. On essaye en quelque sorte de prévoir quelle serait l'issue d'un procès. Ouais. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire. L'important, c'est est-ce que la société y trouve son compte? Est-ce que la peine est raisonnable? Est-ce qu'on peut tourner la page? Là, dans ce cas-ci, je pense que la réponse à ça, manifestement, c'est oui, parce que sinon, la Cour du Québec, croyez-moi, ne se serait pas gênée
pour continuer.
Pour continuer et dire non, je ne veux pas sanctionner cette peine-là.
Excellent. Ben, Maître Robert Rouleau, procureur en chef adjoint au DPCP, directeur des poursuites criminelles et pénales, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Au revoir.
Merci.